One small step for man, one giant leap for mankind.
Alors, vous avez entendu Neil Armstrong, c'était dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, alors qu'il mettait le pied, n'est-ce pas, sur la Lune. Et pour en parler, ben Robert Lamontagne est astrophysicien, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Bonjour, Monsieur Lamontagne.
Bonjour.
Et vous aviez regardé ça en direct. Moi aussi, je l'avais regardé en direct. Moi, ouais. J'avais, c'était en 69, j'avais 5 ans. Bon, vous aviez un petit peu plus vieux, peut-être plus de conscience à 12 ans.
En fait, j'ai l'âge de la conquête spatiale. Je suis né quelques mois avant Sputnik en 1957.
Ouais.
Donc, j'ai 12 ans en juillet 69. Et oui, on avait obtenu une permission spéciale pour passer la nuit debout et regarder les fantômes sur la Lune, l'image de piètre qualité en noir et blanc, mais...
Sur des télés de mauvaise qualité en plus.
sur n'importe quelle télé, ça aurait pas changé grand-chose.
Mais on parle beaucoup de cet événement-là. Est-ce que c'est l'événement le plus important de la conquête spatiale, à votre avis, M. Lamontagne?
Oui, ça peut être... En fait, c'est probablement l'un des événements les plus importants de tout le 20e siècle.
Ah oui, hein? À ce point-là, vous pensez?
On pourrait parler à des historiens, mais très clairement, le fait que l'humanité a quitté son berceau pour la toute première fois et que des humains ont marché sur un corps céleste qui n'est autre que la Terre, ça constitue probablement un des grands événements du 20e siècle. Dans les livres d'histoire, on va s'en souvenir. Mm-hmm. C'est comme Christophe Colomb et... Son premier voyage en Inde, quand il arrive en Amérique. Jacques Cartier, c'est la même chose. Alors, Neil Armstrong, c'est dans la même catégorie.
En fait, c'est le plus loin que l'homme est allé jusqu'à maintenant. Là.
Tout à fait.
Physiquement.
Bon,
là.
On a beaucoup parlé de la mission de David Saint-Jacques récemment. Mm-hmm. 6 mois dans l'espace, travail difficile. Mais la Station spatiale internationale, elle est à 400 kilomètres au-dessus de notre tête. Là.
Ouais.
C'est Montréal-Tadoussac, à peu près. Là. La Lune, c'est 1000 fois plus loin, c'est 400 000 kilomètres. Alors oui, c'est le plus loin où nous sommes allés. On a fait 6 missions réussies à la Lune. Il y a eu quelques missions sans se poser. Mais ensuite, depuis, on n'est jamais allé aussi loin.
Pourquoi au juste on n'est jamais retourné sur la Lune? C'est-tu parce que finalement, on s'est rendu compte que... Il n'y a peut-être pas tant de choses à voir.
Non, pas vraiment. En fait, c'est parce qu'on est allé sur la Lune pour les mauvaises raisons.
Ouais.
On est allé sur la Lune pour...
Des raisons politiques.
Certainement pour les Américains, pour battre les Soviétiques.
Ben oui.
C'était la guerre froide. Le président Kennedy avait lancé un défi à l'Amérique au début de la décennie, en 1961, poser un homme sur la Lune, ce qui était un pari audacieux compte tenu... Du fait que à peine un ou deux astronautes américains n'avaient fait que des sauts de puce dans l'espace, même pas des vols orbitaux.
Mm-hmm.
Les Soviétiques avaient le premier satellite, le premier homme dans l'espace, la première femme dans l'espace, la première marche dans l'espace. Alors, les Américains étaient un peu à la traîne et le pari était de mettre des Américains sur la Lune. Donc, on
les ramener en sécurité, comme avait dit Kennedy à l'époque.
Oui, il faut les ramener vivants.
Ouais.
Il y avait des risques, mais il fallait les ramener vivants. Et ça a été un exploit remarquable. En 8 ans, on a construit un programme spatial qui a amené des hommes sur la Lune, mais c'était pour gagner la course.
Ben c'est ça, parce que les Russes aussi voulaient y aller.
Oui, bien sûr.
Ils étaient prêts, eux autres. Ça s'est joué question de mois, peut-être?
Oui et non. En rétrospective, on a découvert qu'ils n'étaient pas aussi prêts que ça.
Okay.
Mais il y avait, une espèce de jeu de chat et de la souris. Qu'est-ce que l'autre est capable de faire? Quelles sont ses capacités? Et donc, par exemple, la mission Apollo 8 de décembre 1968, qui a amené 3 hommes à faire le tour de la Lune pour la toute première fois, cette mission avait été complètement chamboulée parce que ça ne devait pas être ça. Mais il y avait des rumeurs qui circulaient à l'effet que probablement les Soviétiques allait réussir à envoyer des humains vers la Lune. Alors donc, on s'est dit, on va les battre. On a chamboulé une mission.
Il faut mettre le paquet.
Alors donc, l'idée, c'était de battre les Soviétiques.
Ouais.
Mais une fois qu'on a fait ça, comme on dit en anglais, là, been there, done that, n'est-ce pas? Du point de vue du public américain, l'intérêt a rapidement décliné.
On le voit dans Apollo 13.
Oui, il y a une mention à l'effet qu'il n'y a plus personne qui regarde ça à la télévision.
Jusqu'à ce qu'il y ait un accident.
Tout à fait. il faut voir aussi que les Américains, à la même époque, étaient très fortement impliqués dans la guerre du Vietnam. Et donc, le budget militaire a commencé à exploser, ce qui fait que le budget de la NASA a décliné. On a donc annulé des missions. D'un point de vue scientifique, on avait fait un peu de science. Comme je dis, c'est un peu comme quand on fait des rénovations à la maison. On entre dans cette phase terriblement dangereuse qui est le « tant qu'à », n'est-ce pas? « Tant qu'à faire ça, on va faire ça ». Alors, tant qu'à être sur la Lune, on va faire de la science. On a appris beaucoup de choses. On a appris des choses sur l'origine de la Lune, l'origine de la Terre, la formation du système solaire. Et ça, d'un point de vue scientifique, c'est d'un grand intérêt. Mais ce n'était pas suffisant pour motiver de nouvelles missions.
Qu'aller chercher des cailloux, c'est bien beau, mais il aurait fallu que l'exploration soit plus approfondie sur la Lune?
Oui, puis il y avait... les coûts étaient énormes. On visait autre chose. Disons, on visait davantage la commercialisation de l'espace. On a développé tout le programme de la navette spatiale, par exemple, pour accéder à l'espace de façon plus économique, ce qui ne s'est pas avéré. C'était un fiasco d'un point de vue financier. Là, ça coûtait vraiment très cher.
Ouais.
La navette est une belle machine, mais ça coûtait très cher. On a construit la station spatiale internationale. Là, maintenant, il y a un regain d'intérêt pour la Lune. Du côté américain, on ne s'est jamais caché qu'on voudrait y retourner.
Pourquoi?
Parce que, bon, on veut établir une colonie sur la Lune, soit en orbite autour de la Lune ou sur la Lune. Il y a des raisons scientifiques, mieux comprendre la Lune. Il y a des raisons commerciales. Il y a plein de matières premières disponibles sur la Lune que l'on pourrait exploiter aider à contrer la déperdition sur Terre. On manque de certains matériaux pour construire des choses. Il y en a sur la Lune. Et puis aussi, ça sera un pied à terre et en fait un tremplin vers Mars.
Okay.
Mars
qui est la prochaine grande étape.
C'est la prochaine grande étape.
Ouais.
Et donc, on doit apprendre à vivre dans l'espace de façon autonome et prolongée, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait faire.
OK. Vous avez parlé de colonie. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut organiser une colonie sur la Lune? On peut pas faire pousser du blé d'Inde à la Lune. On peut pas.
on pourrait le faire dans des serres.
Ah
on
oui?
pourrait
un peu comme ce qu'on a vu dans le film
Seul sur Mars, avec Matt Damon. On pourrait faire quelque chose de ce genre, construire des habitacles.
Le sol lunaire serait capable d'accueillir de la culture ou s'il faudrait transporter de la terre?
Il faudrait probablement... il n'y a certainement pas d'engrais sur la Lune. Mais le sol lunaire, n'est-ce pas? De la roche, c'est de la roche, si on peut dire. De la roche concassée de la Terre. Faudrait probablement apporter du compost. Mais à terme, on pourrait le faire. Il y a des tests qui sont faits dans des environnements extrêmes sur notre planète, Grand Nord canadien, désert de l'Atacama, pour voir comment on pourrait justement créer des serres hydroponiques et faire pousser des légumes. Donc, à terme, on pourrait faire ce genre de choses sur la Lune, construire des habitacles protégés et avoir des petites stations habitées, un peu comme on l'a en Antarctique. N'est-ce pas? Il y a des missions qui vont pour 6 mois, 1 an. Donc, on pourrait avoir quelque chose de ce genre et profiter de cette expertise, de ces développements technologiques pour mieux comprendre comment vivre de façon prolongée dans l'espace et à terme atteindre Mars. Parce que aller dans l'espace, c'est compliqué et c'est dangereux. Aller à la Lune, c'est 2 semaines. On part, on passe quelques jours, on revient. Aller vers Mars, ça sera entre 2 et 3 ans.
OK, là, donc, c'est...
Et là, il faut être en autonomie complète.
C'est ça, et on a vu ce qui est arrivé avec David Saint-Jacques. Quand il revient, on a vu que sur le plan physique, il y a des...
Il est un peu amoché.
Ben oui, c'est ça, il revient, pareil comme s'il y avait...
Évidemment, bon, on récupère, mais effectivement, on voit à quel point c'est taxant sur le corps humain.
Mais là, c'est 6 mois, sur 2-3 ans, j'imagine que ça doit avoir une...
C'est la raison pour laquelle je disais, on ne sait pas vraiment... Quelle sera la santé des astronautes quand ils vont arriver sur Mars? On ne veut pas qu'ils se fracturent une hanche dès qu'ils mettent le premier pied sur Mars. On veut qu'ils arrivent en bonne santé. Et donc, on doit apprendre. La Lune serait une bonne base d'entraînement où on est, en semi-autonomie, n'est-ce pas? S'il y a un problème, ben on peut revenir. Ça prend 2-3 jours, mais on peut revenir. Et donc, c'est un peu comme lorsqu'on apprend, on quitte la maison, nos parents nous permettent d'aller dans le jardin, puis éventuellement, tu peux aller jouer de l'autre côté de la rue, puis éventuellement, regarde, t'iras au parc tout seul.
Oui, c'est ça. Mais on parlait avec le médecin de David Saint-Jacques, je pense qu'il y a deux semaines, là, il venait tout juste de revenir, qui nous disait, entre autres, que les astronautes sont soumis à des expositions de radiation qui sont vraiment... qui dépassent la norme acceptable sur Terre.
Oui, c'est...
Alors, j'imagine que si on va sur Mars ou si on s'installe sur la Lune, il y a un risque pour la santé qu'il va falloir apprendre à contrôler, non?
Oui, et pour l'instant, on ne connaît pas très bien ce risque. En fait, c'est qu'il y a peu de d'astronautes qui ont fait des missions prolongées dans l'espace, un peu comme David Saint-Jacques. Mm-hmm. Et on ne connaît pas les effets à long terme. Est-ce qu'il va y avoir davantage d'incidence de cancer chez ces gens? Ils le savent, ils en sont conscients, ça fait partie...
Ils acceptent ça.
Ça fait partie de la description de leur tâche.
Un peu des cobayes, jusqu'à un certain point.
Oui, oui, et ils ne s'en cachent pas. David Cobaye, David Saint-Jacques, oui.
David Cobaye est un Saint-Jacques.
Oui, David Saint-Jacques le disait lui-même. Il était son propre cobaye, n'est-ce pas? Le fait qu'il soit médecin, entre autres, ça permettait de faire les tests plus facilement et donc lui-même, d'une certaine façon, de comprendre le résultat de ses, du moins faire une analyse préliminaire. Ouais. Donc, il a été un cobaye pendant 6 mois dans l'espace, ce qui va servir, ce qu'on va apprendre, va servir pour la prochaine génération d'astronautes qui va aller vers la Lune et vers Mars.
Qu'est-ce qu'on a ramené sur le plan scientifique de la Lune? Il y a une quantité de cailloux, là.
À peu près 400 kilos.
400 kilos de cailloux qui ont été ramenés. Qu'est-ce qu'on a appris de ça? Est-ce qu'il y a des découvertes scientifiques majeures. Vous avez parlé là, du lien avec la Terre. Ça nous a permis de comprendre un peu mieux la relation entre la Terre et la Lune. Là.
On comprend mieux l'histoire de la Terre, l'histoire de la Lune, les premiers moments de la formation du système solaire. Donc, d'un point de vue strictement scientifique, c'est intéressant. Mais je dirais que ce qui a été beaucoup plus intéressant pour le commun des mortels, si on peut dire, c'est la poussée technologique qui a été nécessaire pour réussir l'exploit. Dans nos vies de tous les jours, encore aujourd'hui, on a des retombées des missions Apollo. Tout le monde a un ordinateur portable, un téléphone intelligent. Tout ça, ça découle de la miniaturisation des circuits électroniques qui était nécessaire pour réussir les missions Apollo. Ouais. Les capteurs dont on nous barde quand on va passer des examens médicaux, ces petits capteurs qu'on nous colle un peu partout. Technologie spatiale. Ouais. Il fallait suivre le rythme cardiaque, la pression sanguine à distance. Des choses aussi banales que les gens qui font de la course à pied, les chaussures de sport, le matériau absorbant pour les chocs aux articulations. Ça vient des bottes des astronautes. On a développé ça pour les bottes des astronautes. C'est un peu banal, mais il y en a partout.
Il y a des applications.
Le Velcro vient c'est une technologie spatiale. Il fallait trouver quelque chose pour fixer tout ce qui peut flotter dans notre cabine, le Velcro.
Okay. C'est incroyable quand même.
C'est fou. Il y a plein de petits éléments. Mais je dirais beaucoup plus la technologie des communications et de la miniaturisation. Et l'autre impact des missions Apollo, très, très fort, c'est cette poussée phénoménale du nombre de carrières scientifiques engendrées par les missions Apollo. Des gens comme moi, on a vu ça à la télévision et on voulait tous faire ça. Être astronaute, astronome, astrophysicien, ingénieur, physicien. C'était une carrière scientifique. Ouais. Il y a eu des centaines de milliers de jeunes qui ont embrassé des carrières scientifiques dans les années 70 et 80. Et notre monde technologique est le résultat de toutes ces innovations qui vont être créées par ces gens qui ont regardé ça à la télévision, qui ont dit « ça, là, c'est cool ». Parce que pour des gens de ma génération, c'était la première fois qu'on voyait des scientifiques, des astronautes le sont, des scientifiques, et que c'était cool.
Ouais.
Sinon, avant, les scientifiques, c'était dans les films, c'était
le
scientifique fou qui veut conquérir le monde dans James Bond.
Ouais, exactement.
Ou le professeur Tournesol un peu perdu, n'est-ce pas? Là, c'était « wow, c'est cool faire ce qu'ils font, on veut tous faire ça ».
Est-ce que c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà manipulé de la pierre lunaire vous-même?
Oui, oui, tout à fait.
On dit qu'elle est noire, la pierre lunaire.
Oui, oui, oui.
Alors que quand on regarde les images, la Lune a l'air grise.
c'est une question de contraste, mais effectivement, c'est noir. Pour s'en convaincre, les gens de la région de Montréal, si vous venez dans la région de Montréal, le Musée des sciences dans le Vieux-Port, il y a une section, il y a une pierre lunaire. Et vous pouvez la toucher.
Pour vrai, oui.
Vous pouvez toucher un morceau de la Lune.
Oui.
Quand même.
C'est incroyable.
On s'entend. C'est une roche, là. Roche, c'est une roche. Mais elle vient de la Lune.
Ouais. Ah oui. Mais ça doit vous rendre vraiment, quand vous regardez ça, ça doit être. En tout cas, vous devez avoir une sensibilité particulière.
Je suis un gamin quand je regarde ça.
Ben oui.
Je suis un petit garçon de 12 ans.
Vous vouliez être astronaute quand vous étiez petit.
Oui, bien sûr.
Après cette.
Oui. Et bon, je suis devenu astrophysicien. C'est quand même proche.
Ouais, c'est ça.
La tête dans les étoiles, ça fonctionne.
C'est pour quand la prochaine mission sur la Lune?
Les Américains parlaient de la fin de la prochaine décennie. les Chinois ont annoncé, ont ouvert leur jeu, puis on dit qu'ils enverraient des taïkonautes sur la Lune, peut-être même une colonie pour 2027, 2028, 2029. Et là, on a vu la réaction du président américain qui a été, un peu piqué.
Oui.
Et donc, il parle d'une mission spatiale, un retour à la Lune pour 2024, dans un truc qu'on appelle le projet Artemis.
Ouais.
Un joli clin d'œil au projet Apollo. Artemis et Apollon étaient des jumeaux de la mythologie.
Ouais.
Et donc, là, on parle d'hommes et de femmes sur la Lune.
OK. Mais est-ce que la technologie qui va amener les prochains hommes sur la Lune va être bien différente de celle qui a amené Neil Armstrong et Buzz Aldrin en 69?
Absolument pas. On sait comment aller sur la Lune. On l'a fait.
Ouais.
Mais on n'a présentement pas les fusées suffisamment puissantes pour nous amener à la Lune.
Ouais.
Alors, donc, il faut recréer ce qu'on avait fait à la fin des années 60. Donc, il y a des programmes de développement du côté de la NASA, alliés avec le privé, on peut penser à SpaceX, par exemple, pour développer des lanceurs suffisamment puissants, des cabines de plus grande envergure. Mais c'est essentiellement un programme Apollo sur les stéroïdes, si on peut dire. Et on va recréer ça. C'est la bonne vieille méthode.
La façon d'allunir, ça va pas changer, ça va se ressembler.
Ça va se ressembler. On l'a vu avec la mission de David Saint-Jacques. Comment David Saint-Jacques atteint-il la station spatiale? Les fusées russes, qui sont c'est une technologie qui a 50 ans, très éprouvée, elle marche.
Qui marche. Ouais.
Et donc, on va refaire ça. Aller vers Mars, ça sera probablement... Ça va demander un peu de technologie différente. Il faudra peut-être imaginer des convois de fusées qui vont amener du matériel à l'avance pour installer des choses, puis ensuite envoyer les astronautes.
En espérant que ces convois-là réussissent à marcer, ça se dit-tu, à marcer?
Je ne sais pas, mais je pense qu'on peut parler d'atterrir sur Mars.
Parce qu'il y a eu plein de problèmes avec des sondes qui ont été envoyées sur Mars puis qui sont écrasées.
Bien sûr, c'est toujours très difficile de faire atterrir un objet en douceur sur n'importe quel corps céleste dans l'espace. Dieu seul sait combien il y en a qui se sont écrasés sur la Lune, sur Mars, sur Vénus. C'est très compliqué. Et à date, si on parle de Mars, seuls les Américains ont réussi à poser des objets en douceur sur Mars. Ils ont eu des échecs, mais ils ont été les seuls à réussir à quelques occasions. Les Européens, les Russes ont raté leur coup. Récemment, une mission vers la Lune, une mission israélienne, lancement bien réussi. La sonde s'est écrasée sur la Lune.
Ouais.
Alors, c'est très difficile d'atterrir en douceur sur un
En fait, vous dites qu'il y a juste les Américains qui ont envoyé sur Mars. Là, on sait qu'il y a les Martiens, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, mais là, on n'entrera pas dans la conspiration.
Monsieur Lamontagne, c'était passionnant de vous entendre. C'est quand même une date importante, je pense, le 21 juillet 1969. Oui. Et puis, il va y avoir plein de commémorations au cours de la fin de semaine.
Oui, et j'aimerais juste rajouter le fait qu'il y a un symbole fort dans le 50e, et en fait, dans le fait que Neil Armstrong soit allé sur la Lune, c'était un civil. Ce n'est pas un militaire. Le premier homme sur la Lune est un civil, et je pense qu'il y a un symbole fort pour l'humanité là-dedans.
Et le premier pied sur la Lune n'est pas américain. Il est canadien, puis c'est Héroux Devtek ici.
Exactement. Les pattes sont arrivées avant Neil.
Donc, ils sont à Longueuil, eux autres, je pense.
Oui, c'est ça, sur la rive sud.
Héroux Devtek, Longueuil, a mis le pied sur la Lune avant Neil Armstrong. Il faut le faire quand même.
Quand même. Il y a un peu de nous là-dedans.
Exactement. Monsieur Lamontagne, merci beaucoup d'être passé.
Un plaisir.
On s'arrête un tout petit moment. On revient tout de suite après.